un sourate Younes. Notre frère Asie vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 27 novembre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le destroyer Deilaman a rejoint la flotte nord de la marine de la République islamique d'Iran. Troisième phase d'échange de prisonniers. Le Hamas libère 17 captifs tandis qu'Israël libère 39 Palestiniens. Et les forces armées yéménites ont tiré des missiles balistiques sur un destroyer américain dans le golfe d'Aden. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le destroyer Deilaman a rejoint la flotte nord de la marine de la République islamique d'Iran. Lors d'une cérémonie officielle, lundi matin 27 novembre, le destroyer Deilaman rejoint la flotte nord de la marine iranienne. Participer à cette cérémonie au port Anzali, dans le nord du pays, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Hossein Bareri, le commandant de l'armée iranienne, le général de division Abdurrahim Mousavi, et le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irari. Deilaman est le cinquième destroyer de la classe Jamaran des destroyers iraniens. Il s'agit du plus récent destroyer de la marine iranienne. Il pèse 1500 tonnes, a été conçu et construit sous la supervision de la marine et de l'Organisation des industries maritimes, affiliée au ministère de la Défense de la République islamique d'Iran. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Irani, a déclaré lors de cette cérémonie. Aujourd'hui, la flotte nord de la marine iranienne a l'honneur de recevoir la dernière réalisation de l'industrie de défense du pays, construite grâce aux efforts 24 heures sur 24 de tous les spécialistes et grâce aux plus grands moyens technologiques de notre marine. S'exprimant lors de la cérémonie, le contre-amiral iranien a déclaré que le destroyer Deilaman, doté d'équipements modernes, pouvait contribuer à une formation de qualité des troupes, notamment en matière d'opérations de sauvetage. Le commandant de la marine a rappelé qu'aujourd'hui la région souffre des conflits et que le seul moyen de calmer ses souffrances reste la résistance. Nous espérons que la résistance du peuple palestinien contre le régime sioniste sera couronnée de succès. L'oppression n'est définitivement pas durable et le régime sioniste est en train de disparaître. Cette promesse se réalisera, a-t-il ponctué. Lors de son entretien téléphonique avec son homologue turc, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les États-Unis n'ont aucun droit d'intervenir dans le processus décisionnel sur l'avenir des Palestiniens. Le président iranien a fait cette remarque lors d'un appel téléphonique dimanche 26 novembre avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Au cours de la conversation téléphonique, M. Raisi a souligné que les États-Unis sont le tueur du peuple de Gaza et que toute intervention américaine dans la détermination du statut futur du territoire palestinien signifierait la poursuite des crimes de ce pays contre les Palestiniens. Soulignant que les Américains étaient complices des crimes horribles et du massacre du peuple opprimé de Gaza par le régime sioniste, le président iranien a déclaré que les États-Unis n'avaient aucune crédibilité auprès de l'opinion publique des nations du monde entier. Les Américains n'ont pas le droit d'intervenir dans un quelconque processus décisionnel concernant la population de Gaza, et toute mesure qu'ils prendront à cet égard est vouée à l'échec, a dit M. Raisi. Israël a libéré un troisième lot de prisonniers palestiniens en échange de plus d'une douzaine de captifs libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas dans le cadre d'un accord d'échange qui fait suite à une trêve de 4 jours dans la guerre incessante du régime sioniste contre la bande de Gaza. Le régime israélien a libéré 39 prisonniers palestiniens dimanche 26 novembre, après que le Hamas a libéré 17 captifs au cours de la troisième phase de l'accord, qui était également le troisième jour de la trêve. Le Hamas a déclaré dans un communiqué avoir remis à la Croix-Rouge 13 prisonniers israéliens ainsi que 3 ressortissants thaïlandais et un russe. Selon le communiqué, les prisonniers palestiniens libérés par Israël étaient des jeunes qui avaient été arrêtés par le régime alors qu'ils étaient enfants. Faisant état du processus d'échange, le Centre d'information palestinien a déclaré que les forces israéliennes ont empêché les gens de se rassembler devant la prison d'Ofer près de la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée, d'où les prisonniers palestiniens ont été libérés. Ils ont également dispersé les Palestiniens dans la ville de Beitounia, également proche de la prison. Les forces du régime ont tiré à balles réelles et tiré des grenades lacrymogènes sur les civils palestiniens rassemblés à proximité de l'installation, blessant plusieurs d'entre eux, ainsi qu'un journaliste. Des milliers de Palestiniens ont accueilli les prisonniers libérés à Ramallah. Ils se sont rassemblés au centre de la ville en brandissant des drapeaux du mouvement Hamas et en scandant des slogans en soutien à la résistance palestinienne. Dans la ville occupée de Rots, les forces israéliennes ont pris d'assaut les maisons des prisonniers libérés à plusieurs reprises, battant les familles des prisonniers et empêchant les médias de couvrir les moments de libération des prisonniers. Ils ont également empêché les cérémonies de réception des prisonniers palestiniens libérés. Un haut responsable du Hamas, Mahmoud Mardavi, a déclaré que la résistance était prête à conclure un accord d'échange global avec le régime occupant, ajoutant que la balle était désormais dans le camp du régime. L'armée américaine affirme que les forces armées yéménites ont tiré 2 missiles balistiques en direction de l'USS Mason, un destroyer de classe Arleigh Burke dans le golfe d'Aden. Dans un communiqué, le commandement central des États-Unis, CENTCOM, a indiqué que le destroyer avait été pris pour cible tôt lundi matin 27 novembre après avoir aidé le navire citerne Central Park qui avait été saisi dans le golfe d'Aden. Les missiles ont atterri dans le golfe d'Aden environ 10 000 marins des navires, dit le communiqué. Aucun dommage n'a été signalé sur l'un ou l'autre des navires lors de cet incident, selon le communiqué. Le Central Park transportait de l'acide phosphorique et avait un équipage international de 22 personnes, a rapporté la société de presse. Il a envoyé un signal de détresse incitant l'avion américain USS Mason à réagir. Le navire citerne, bas pavillon libérien, est géré par Zodiac Maritime basé à Londres, qui fait partie du groupe Zodiac du milliardaire israélien Eyal Ofer. Plus tôt ce mois-ci, les forces armées yéménites ont saisi un navire de transport de véhicules également lié à Israël dans la mer Rouge au large du Yémen. Les forces armées yéménites ont menacé d'attaquer des navires israéliens dans les eaux au large du Yémen et ont lancé des frappes de drones et de missiles ciblant les territoires occupés en solidarité avec les Palestiniens de la bande au Gaza. 3 étudiants palestiniens ont été blessés par balle dans l'état du Vermont, au nord-est des États-Unis. Il s'agit d'un acte d'islamophobie au milieu du soutien indéfectible des États-Unis à la guerre génocidaire du régime sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. La police de la ville de Burlington a déclaré que les agents avaient répondu à un appel samedi soir, 25 novembre. L'ambassadeur palestinien en poste à Londres, Oussam Zamlot, a identifié les étudiants comme étant Hisham Avartani, Kinan Abdelhamid et Tassin Ahmed. Il a posté sur X que chacune des victimes portait le kefia palestinien lorsqu'ils ont été attaqués, l'ambassadeur les ayant identifiés comme 3 jeunes Palestiniens. En même temps, le Comité américano-arabe de lutte contre la discrimination, ADC, a déclaré dans un communiqué de presse. On a des raisons de croire que si cette fusillade s'est produite, c'est que les victimes sont arabes. L'ADC a déclaré que les étudiants parlaient arabe lorsque le tireur leur a crié dessus et a ouvert le feu. Le chef de la police de Burlington a déclaré que le ou les tireurs n'avaient pas été identifiés ni appréhendés, ajoutant que le service de police en était au premier stade de son enquête sur ce crime. La fusillade s'inscrit dans le cadre d'une recrudescence plus large des crimes haineux contre les musulmans et les Arabes aux États-Unis. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. échange de prisonniers avec la résistance. Le retour du régime sioniste au point zéro. Alors que le régime sioniste annonçait la prise totale du nord de Gaza, au terme d'une quarantaine de jours d'opérations terrestres dans cette zone, le Hamas, en libérant une partie des prisonniers israéliens, a asséné le dernier coup fatal à la crédibilité des sionistes. De rassemblement après l'échange de prisonniers entre le Hamas et le régime sioniste ont attiré l'attention des caméras et des médias du monde entier. Le premier, un rassemblement nocturne organisé le deuxième jour du cessez-le-feu à Tel Aviv, au cours duquel les colons, exprimant leur colère et leur mécontentement face à la politique de Benjamin Netanyahou, ont demandé au premier ministre du régime sioniste de ne pas perturber le processus de libération des prisonniers israéliens. Le deuxième rassemblement a également eu lieu dans les zones proches de Ramallah, en Cisjordanie, où des milliers de Palestiniens brandissaient le drapeau de la Palestine ainsi que des drapeaux ornés du symbole du Hamas et attendaient la libération des prisonniers détenus dans les prisons du régime depuis des mois et des années. Le régime israélien a tenté de disperser les deux rassemblements. Dans le premier cas, il a eu recours à des promesses et à des fanfaronnades. Dans le second cas, il a fait usage de la terreur et des gaz lacrymogènes. Mais les larmes qui coulaient des yeux des Palestiniens étaient noyées dans leur sourire et leur enthousiasme victorieux, contrairement à l'atmosphère d'inquiétude et de colère qui dominait le premier rassemblement. Alors que le régime sioniste prétendait dominer le nord de Gaza et pour faire preuve de sa domination, il n'a même pas refusé d'attaquer et d'assiéger l'hôpital pour enfants. Il s'est vu remettre ses prisonniers à l'endroit même qu'il prétendait avoir occupé. C'est ainsi qu'au terme d'un mois et demi de bombardements sans répit sur la bande de Gaza, de franchissement de toutes les lignes rouges humanitaires et morales, et de présentation des images des tunnels que les médias sionistes ont ensuite annoncés comme étant fausses, le régime sioniste a été contraint de faire retourner au point zéro toutes les règles écrites et non écrites de la guerre.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat du jour en ce samedi 25 novembre 2023. Nous allons nous intéresser aux dernières évolutions palestiniennes avec une trêve qui est entrée en vigueur depuis vendredi, une trêve de 4 jours provisoire. Alors, on va s'intéresser sur les évolutions à l'intérieur de la bande de Gaza, également en Cisjordanie occupée. Et malgré cette trêve, les agences humanitaires avertissent depuis des semaines que le manque d'accès à l'eau potable, aux éléments sanitaires et avec les infrastructures en destruction. Alors, le peuple palestinien, le peuple gazaoui sont en situation très, très désastreuse. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts. Avant de dire bonjour à nos deux experts, je vous propose un point en image. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après.
Millions d'habitants de Gaza, pour la plupart des enfants, qui sont exposés à des bombardements aveugles d'Israël depuis plus de 6 semaines, sont désormais également confrontés à des défis liés à la crise sanitaire. Le siège paralysant a non seulement perturbé la vie ordinaire, mais a également bloqué l'entrée des fournitures. Les agences humanitaires avertissent depuis des semaines que le manque d'accès à l'eau potable et à la nourriture pousse le territoire côtier sous blocus au bord d'une épidémie majeure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seul un quart des hôpitaux de Gaza sont actuellement opérationnels, la plupart d'entre eux ayant été contraints de fermer en raison des bombardements israéliens incessants. Au cours de la semaine dernière, davantage d'hôpitaux ont été mis hors service et des médecins ont été tués, blessés ou arrêtés par le régime de Tel Aviv, qui bénéficie du plein soutien de l'Occident. Selon les experts, le cessez-le-feu de 4 jours ne fera pas grand-chose pour atténuer les souffrances des habitants de Gaza, dans la mesure où les dégâts causés par 48 jours d'agression ne peuvent être ni réparés ni inversés. Oxfam, une organisation humanitaire internationale, a déclaré mercredi dans un communiqué que l'accord de trêve est un pansement à la plaie saignante de Gaza, faisant écho à ce qu'on avertit les militants des droits de l'homme et les travailleurs humanitaires à Gaza. Le siège tout azimut que le régime israélien a imposé à la bande de Gaza depuis le début de la dernière guerre a conduit à une grave pénurie de carburant nécessaire au pompage et à l'épuration de l'eau. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies estime que près de 70% des 2,3 millions d'habitants de Gaza, dont plus de la moitié sont des enfants, n'ont plus accès à l'eau potable, ce qui a exacerbé les inquiétudes quant à l'apparition de maladies. Les habitants de Gaza sont également aux prises avec la pénurie de nourriture, car les chaînes d'approvisionnement alimentaire se sont effondrées. Alors que les gens sont confrontés à des pénuries alimentaires, à la malnutrition et à un temps plus froid imminent, ils seront encore plus susceptibles de contracter des maladies. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a critiqué le régime israélien pour avoir mené une guerre de famine contre les civils dans la bande de Gaza. Il est également consternant que le carburant continue d'être utilisé comme arme de guerre. Tenter d'entasser autant de personnes dans une zone aussi petite, avec si peu d'infrastructures ou de services, augmentera considérablement les risques pour la santé des personnes déjà au bord du gouffre. L'accord de trêve de 4 jours, confirmé à la fois par le Hamas et le régime israélien, ne suffit pas à stabiliser la situation à Gaza, car la crise humanitaire latente a besoin de plus de 4 jours pour s'apaiser. En outre, estiment les experts, le bilan tristement célèbre du régime israélien en matière de non-respect des règles, des résolutions et des accords rend peu probable que la crise à Gaza, en particulier la crise sanitaire, soit résolue dans un avenir proche. Jeudi, des rapports ont fait état de pilonnage par l'armée israélienne de nombreuses zones de la bande de Gaza, entraînant une augmentation du nombre de morts palestiniens, malgré l'accord de cesser le feu.
Voilà, retour au plateau de Presse TV depuis Téhéran. J'ai le plaisir de recevoir à distance Monsieur Bernard Cornu, militant pour la paix, expert en énergie, connaisseur du terrain, des évolutions moyen-orientales, dont notamment palestiniennes. Bonjour Monsieur Cornu.
Bonjour à vous et bonjour à Monsieur Amrouni.
Bonjour à Monsieur Amrouni, universitaire, docteur Amrouni qui est également géopoliticien. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis Paris.
Merci à vous. Bonjour à vous, à votre cher invité, à nos chers téléspectateurs.
Alors, on commence tout de suite par Bernard Cornu, qui est expert en énergie et militant pour la paix. Monsieur Cornu, alors les bombardements et le siège poussent Gaza dans une crise sanitaire, autrement dit, mieux dire humanitaire, engendrant plusieurs défis, dont notamment des maladies. Alors, malgré une trêve qui est un pansement, les retrouvailles, les scènes de soulagement, on est très préoccupés, les humanitaires, surtout par la crise humanitaire dans la bande de Gaza qui subsiste.
Oui, bien sûr, il faut aussi rappeler que les bombardements israéliens ont détruit des milliers d'immeubles résidentiels où habitaient les gens dans cette zone très peuplée, et que maintenant ils sont dehors. Le climat en octobre est assez clément, ni chaud ni froid à Gaza, mais dès mi-novembre, maintenant, il peut faire très froid la nuit. Donc les enfants vont souffrir du froid et comme on manque de couverture, on manque d'abri, si la pluie vient aussi, ce sera très difficile pour vivre. Et vous avez bien rappelé dans votre article le manque de médicaments, le manque de nourriture depuis longtemps à cause du blocus de Gaza complet et la rareté, les quelques 40 ou 50 camions qui avaient pu entrer avant cette trêve. Il faut donc espérer que cette trêve continue jusqu'au bout pour les 4 jours, soit même prolongée puisque c'est effectivement prévu par les accords et qu'elle amène à un cessez-le-feu comme maintenant plusieurs grandes puissances le demandent et l'espèrent. Il faut voir que tous ces bombardements, ces destructions, ce manque de fuel, d'essence pour les ambulances, pour les hôpitaux, fait que la situation est très difficile, comme vous l'avez bien signalé. Moi-même, je connais cette bande de Gaza depuis près de 30 ans. Je suis passé, j'ai vu les conditions déjà difficiles à l'époque des gens pour vivre, pour assurer des revenus à partir des productions locales. L'eau aussi à Gaza est de plus en plus salée parce que tous les kibboutz qui sont installés juste à l'extérieur de la bande de Gaza, à son est, pompent eux-mêmes beaucoup d'eau pour leur propre culture et pour leurs piscines. Et donc la nappe qui alimentait la bande de Gaza s'est peu à peu effondrée. Elle est remplacée par des infiltrations d'eau saline, ce qui fait que l'eau locale est très difficile à exploiter et ne peut être exploitée qu'après un dessalement. Et comme il y a aussi des infiltrations dans ces sables, de nombreux pesticides utilisés par les cultures maraîchères israéliennes, la situation sanitaire est connue pour être déjà très difficile. Et la consommation de l'eau était déjà décrite comme dangereuse et peu potable progressivement.
Merci beaucoup. Emma Bevin Amrouni, malgré le cessez-le-feu, pour donner un petit résumé de la journée d'hier à Gaza, Israël a continué de bombarder Gaza et de continuer de nettoyage en Cisjordanie occupée. Hier matin, l'armée israélienne a tiré sur des familles palestiniennes qui tentaient de rentrer chez eux au nord de Gaza. Des journalistes aussi ont été pris pour cible. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quel premier regard portez-vous sur cette trêve de 4 jours déjà?
En tout cas, on n'est pas dans un cessez-le-feu, c'est une trêve humanitaire. D'abord, il faut saluer le courage du peuple Gazaoui, le courage et la bravoure de la résistance palestinienne, la victoire de cette résistance, la victoire militaire, la victoire politique, la victoire humaine. Ce que Gaza nous envoie depuis presque 50 jours aujourd'hui, c'est la valeur humaine de cette résistance, la valeur humaine de ce peuple Gazaoui dont l'armée sioniste, elle ne mène pas un combat militaire, elle combat pas les militaires, l'armée sioniste. Elle est en train de faire un nettoyage ethnique. On est en face, en fait, d'un changement catégorique de la carte de la Palestine, encore une fois. Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, l'armée sioniste rappelle le monde entier en disant, voilà, Gaza menace l'existence d'Israël. Donc Gaza doit disparaître. Doit disparaître ou bien par l'exode, la sortie de la population Gazaoui vers l'Égypte, ou bien on va tuer tout le monde. Donc ils ont commencé à bombarder les hôpitaux. Ils ont commencé à bombarder les églises, les mosquées. Il y a 60 à 70% des maisons habitables sont détruites. Et on détruit la vie à Gaza. Il faut comprendre le message de l'armée sioniste. L'armée n'a pas des objectifs militaires. Depuis toutes les guerres que Israël a menées, c'était des guerres militaires. Donc, ils avaient des objectifs militaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectifs militaires. Il y a un changement de carte. Il y a un changement de la géopolitique. Les Américains aussi sont contre un cessez-le-feu. Ils sont avec des trêves parce que M. Biden a besoin pour redorer son image, entre parenthèses, démocratique au sein de la population américaine et surtout aux supporters du Parti démocrate aux États-Unis. Il faut saluer d'abord aussi l'opinion publique américaine, la jeunesse européenne, la jeunesse française qui... Depuis 5 semaines, 6 semaines, tous les jours en France, En Europe, aux États-Unis, la jeunesse, elle crie « Nous sommes tous des Palestiniens, vive la résistance palestinienne ». Elle appelle, l'opinion publique européenne appelle à un cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce qu'on voit vraiment le nettoyage ethnique, on voit un crime contre l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut demander à tous ceux et celles qui ont le pouvoir politique d'imposer un cessez-le-feu, de le faire. Et surtout la France. Il faut que la France reprenne sa position initiale et historique pour la protection de la Palestine et des Palestiniens. Parce que le rôle de la France, c'était ça. Le rôle de la France était la protection des civils palestiniens face à l'agression israélienne. Aujourd'hui, la France a les moyens techniques, elle a les moyens politiques. Malheureusement, il y a une minorité sioniste qui veut capoter la position française. Donc il faut que la France reprenne confiance, il faut que la France intervienne humainement, je parle là entre parenthèses, humainement. Comme M. Cornet l'a bien dit, aujourd'hui, il n'y a pas tout ce qui est nécessaire à la vie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas les choses les plus simples, les choses alimentaires. Donc, l'objectif de l'armée sioniste, l'objectif du gouvernement d'extrême droite israélienne, c'est l'anéantissement de Gaza. Il ne faut pas attendre un cessez-le-feu. Même M. Biden n'a pas le pouvoir de demander un cessez-le-feu. Donc, la crise va être plus profonde. L'armée palestinienne, dès lundi soir, elle va encore bombarder. Depuis 50 jours, ils ont presque 40 000 tonnes de bombes. Je pense qu'à partir de lundi soir, ils vont mettre, je ne sais pas moi, la semaine qui arrive ou les deux semaines qui arrivent, ils vont encore mettre 100 000 tonnes de bombes. Donc, il ne faut pas dire, voilà, on a la trêve, c'est fini, on va entrer dans une autre trêve, etc. et on va arriver à un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Donc il faut protéger, il faut demander la protection des civils Gaza. Aujourd'hui, il faut que la France, pourquoi j'insiste sur la France ? Parce que les Gazaouis, les Palestiniens, ont un très bon regard par rapport à la France. Historiquement, la France, elle était à côté de la Palestine. Donc il faut qu'elle reprenne cette position. On demande, nous, en tant que citoyens français, que notre gouvernement reprenne cette position, malgré la pression. Je le vois tous les jours, moi, dans les médias français. J'ose même pas dire qu'il y a des médias en France. Les médias en France sont des médias sionistes. Donc, il faut le comprendre, ça. Donc, la position de la France, elle n'est pas dictée par BFM ou par CNews ou par je ne sais pas qui. Elle est dictée par l'intérêt de la France et par la position historique de la France. Donc, la population de Gaza, c'est vrai que la résistance fait tout pour protéger donc, les civils de Gaza, pour mener la bataille militaire avec une éthique, mais vraiment performant, mais malheureusement, elle ne peut pas protéger les civils. Donc, il n'y a que l'opinion publique, que les peuples qui peuvent sauver Gaza. Et les positions de quelques gouvernements, dont la France, il faut que M. Macron, comme il a visité Tel Aviv, j'espère que nos représentants politiques visitent Gaza. Pourquoi des politiciens ou des diplomates européens ne rentrent pas à Gaza pendant la trêve ? C'est très important d'être à Gaza aujourd'hui.
Oui, bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Amrouni. À vous, Bernard Cornu, en tant qu'expert en énergie. Alors, Gaza est sous un blocus total. Il n'y a pas de carburant ou bien c'est très, très minime. Donc, il n'y a pas d'aide. Une aide efficace n'est pas possible sans carburant. Alors, comment l'ONRWA et les agences humanitaires peuvent gérer la situation ?
Dans l'accord de trêve, il est prévu une livraison de 130 mètres cubes de carburant chaque jour, ce qui pourra être utile pour redémarrer les pompes et les installations de dessalement, les pompes qui sont nécessaires pour le traitement des eaux usées et pour le fonctionnement des hôpitaux et la circulation des ambulances et des camions de livraison ou des camionnettes de livraison dans cette bande de Gaza. Ceci est essentiel et donc il faut espérer que la trêve tienne pour ces 4 jours et que donc cette quantité, non pas suffisante, mais déjà très nécessaire de carburant puisse être livrée. On a vu d'ailleurs dans les images qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des installations solaires photovoltaïques qui sont fragiles mais qui permettent d'alimenter des batteries et des systèmes électroniques qui permettent de faire du courant. Et ceci a beaucoup servi d'ailleurs pour la recharge des téléphones portables dans des habitants de Gaza. Je retiens aussi cette suggestion qu'il serait important que des dirigeants européens viennent eux-mêmes sur les territoires de Gaza pendant cette trêve, pendant ces 4 jours ou au-delà, pour montrer, disons, une présence humanitaire et la volonté qu'il y ait un cessez-le-feu. Parce que je pense que si des dirigeants européens sont présents, il sera difficile à l'État israélien, à l'armée israélienne, de reprendre ces bombardements. Ce sont des actes courageux qui ont été faits par peu de personnes jusqu'à aujourd'hui parmi nos dirigeants européens. Je me rappelle que très bien que l'abbé Pierre, qui est un homme très connu en France, était la personnalité la plus respectée en France, et je l'ai connu moi-même, s'était rendu à Gaza. Et dès qu'il est rentré, il a été boycotté dans les médias français. Mais il faut que ces gestes soient repris, que des personnes se rendent sur place pour obliger à un cessez-le-feu, pour expliquer, pour obliger à respecter le droit humanitaire sur cette terre ancienne de Gaza et symbolique maintenant dans le monde entier.
Merci Bernard Cornu. Et Madame Rouni, alors suite à vos propos, votre proposition sur un déplacement des autorités françaises, voire européennes, dans la bande de Gaza pour voir de près la situation. J'ai pensé à un geste humanitaire depuis Barcelone. Il n'y a que le football à Barcelone. Il y a également des gestes politiques et humanitaires en faveur de la Palestine. Barcelone a suspendu toute relation avec Israël jusqu'à l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza et que les droits du peuple palestinien soient garantis. Comment réagissez-vous?
Oui, c'est une position très courageuse. Bravo l'Espagne, bravo le gouvernement espagnol. Il faut faire ça. Aujourd'hui, l'humanité se bat à Gaza. Gaza représente les humains. L'armée israélienne représente les sauvages. Donc, il faut le dire, ça. C'est l'humanité qui se bat contre les criminels. On n'est pas face à une guerre où il y a deux armées. En écoutant les médias ici, le Hamas contre l'armée israélienne. Le Hamas, c'est-à-dire si on ne connaît pas le Hamas, on va penser que le Hamas est un État. Le Hamas, c'est une armée classique qui se bat contre l'armée israélienne. Mais le Hamas est un groupe militant, des résistants. Ce n'est pas une armée, le Hamas. Donc il faut comprendre ce qui se passe sur place. Sur place, on a l'humanité représentée par Gaza. Le Gazaoui, aujourd'hui, représente les humains. L'armée israélienne, elle représente les sauvages. C'est ça qu'il faut dire. Il faut employer les mêmes termes. Eux, ils veulent inverser les termes. Monsieur Netanyahou, il dit, moi, je me bats pour protéger la civilisation occidentale. Il s'identifie à la France, Israël. Israël n'a rien à voir avec l'Europe. N'a rien à voir avec l'Europe, avec les peuples de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on voit les Européens, les Français, les Espagnols, les Italiens, les Anglais, tous les jours, sortent et disent « nous sommes tous des Palestiniens ». Jamais en France, on a entendu que nous sommes tous des Israéliens. Pourquoi? Parce que la Palestine représente l'humain, représente les valeurs humaines. Et il faut défendre les valeurs humaines. C'est très important, même pour les enfants. Les enfants d'aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent. Monsieur Attal, le ministre de l'Éducation française, demande à des enfants de CM1, CM2, de préparer donc un exposé sur qu'est-ce que Hamas a fait en Israël. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Attal, en France? Je ne sais pas. C'est comme Monsieur Blinken, lorsqu'il est allé à Tel Aviv, il a dit, je ne suis pas ici en tant que ministre des Affaires américaines, je suis en tant que juif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire aux gens, les pauvres juifs sont tués par les sauvages arabes et musulmans. Alors c'est le monde entier sait que c'est l'inverse. Tous les juifs, tous les musulmans sont contre ce que pratique l'armée sioniste. Toute l'opinion publique française sait très bien aujourd'hui qu'il y a une clique, il y a une minorité qui gouverne la France. Il faut que cette minorité cesse de dicter ses positions. Les positions qu'on le voit dans les médias français jusqu'à aujourd'hui ne représentent pas la politique de la France, ne représentent pas la France, ne représentent pas la France historique. Et il faut le dire haut et fort. Ils essaient de montrer même de créer la guerre en France. Ils essaient de dire, voilà, il faut dire que tout le monde est avec Israël. Mais tout le monde dit, nous sommes tous des Palestiniens. Merci. C'est ça la réalité de l'Europe aujourd'hui. L'Europe, elle s'éveille. La conscience européenne, aujourd'hui, c'est une conscience palestinienne. Et la Palestine représente les hommes qui se battent contre les sauvages, contre les criminels. C'est comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Le monde, il s'est battu contre le nazisme. La France, l'Angleterre, les États-Unis, ils ont donné presque 200 000 martyrs face au nazisme. Aujourd'hui, on se bat face au sionisme. Donc le sionisme qui détruit Gaza, il est en train de détruire la France. Il veut détruire la France, il veut détruire l'Angleterre, il veut détruire l'Allemagne. Il veut nous dire que toute la France, elle est contre l'islam et contre les Arabes. Et merci que les musulmans beaucoup, qui sont noirs, ils sont anti-français et anti-européens. Non, monsieur, nous sommes citoyens, nous sommes français, nous sommes fiers d'être français. Nous appartenons à l'histoire de la France depuis 7-6 siècles. Donc il faut cesser cet amalgame. Aujourd'hui, les criminels, c'est des Israéliens, soutenus par une clique sioniste qui habite notre terre, la France ou l'Europe ou les États-Unis. Aujourd'hui, c'est ça la guerre. La guerre n'est pas simplement à Gaza, elle est à Paris aussi.
Merci beaucoup, Madame Bonny.
Nous sommes en guerre contre une clique qui veut tuer l'humain dans le monde.
Merci, et Madame Bonny, pour tous ces éclairages. Nous avons moins de 2 minutes devant nous. Dernier mot, peut-être avec Bernard Cornu, pour conclure, s'il vous plaît.
Ce qui est sûr, c'est que même M. Macron l'a reconnu, il y a une lutte d'influence dans le Quai d'Orsay et dans l'État. Ce que M. Macron lui-même, lors d'une conférence devant les ambassadeurs, a dénoncé comme un État profond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'exercer une influence en faveur des puissances d'argent, en faveur de puissances d'occupation. Le président français doit avoir le courage de prendre des positions indépendantes, d'écouter beaucoup de conseillers, et non pas ceux qui sont pro-israéliens. Il y en a d'autres qui ont des connaissances très fortes de la région arabe, de l'histoire de cette région, et qui peuvent lui proposer des éléments importants pour que la France prenne l'initiative avec peut-être d'autres pays, membres permanents ou non du Conseil de sécurité, pour proposer une résolution sous chapitre 7, c'est-à-dire avec recours potentiel à la force si besoin, pour appliquer ces résolutions et d'autres résolutions. C'est le seul moyen d'avancer vers une solution décisive, une relance décisive du processus de négociation avec les Palestiniens. La France doit reconnaître l'État palestinien, comme maintenant l'Espagne dit qu'elle va le faire si l'Europe ne prend pas ses initiatives. C'est une première étape, et ensuite il faut, par le Conseil de sécurité, faire une résolution sous chapitre 7 qui impose une solution juste et durable à l'ensemble de la région pour régler tous les conflits existants depuis la création, l'autoproclamation de l'État d'Israël.
Je vous remercie, Bernard Cornu, expert en énergie, militant pour la paix. Et merci beaucoup à vous aussi, Emma Dedine Amrouni, amis téléspectateurs. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Excellente journée à toutes et à tous.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Chercheur de vérité. Dakouki était un homme d'amour et de prodigue, très attentif à se protéger de ce qui est illicite. Jamais il ne restait plus de 2 jours en un même lieu, car il se disait « Si je reste davantage dans une maison, je risque de voir mon cœur attiré par quelque chose ou par quelqu'un. » Il marchait le jour et priait la nuit. Sa nature était celle d'un ange. Comme il était pur, il était perpétuellement à la recherche d'hommes purs et adressa à Dieu cette prière. « Ô mon Seigneur, fais-moi rencontrer tes fidèles serviteurs. » Et Dieu lui répondit, « Homme pur,
quelle soif et quel amour en toi. Mais si cet amour m'est consacré, pourquoi es-tu toujours à la recherche d'hommes ? Dakuki, ô mon Dieu, je suis au beau milieu de l'océan et je cherche une cruche d'eau. Les désirs que j'ai concernant ton amour me sont un objet de fierté, de même que mes désirs pour autrui me sont un objet de honte. Depuis des années, je voyage sans cesse, en Orient comme en Occident. Je vais pieds nus sur les chemins remplis de cailloux et d'épines. Mais ne crois pas qu'un amoureux se déplace sur ses pieds torturés. Non, c'est avec son cœur qu'il voyage. Mon attirance pour l'homme ne fait qu'augmenter. Je voudrais voir la vague de l'océan dans une goutte d'eau. Un jour, Dakuki se trouva diriger la prière sur une plage parmi un groupe de fidèles. Tout le monde se mit en ligne pour faire la prière du soir, quand soudain, le regard de Dakuki se dirigea vers la mer et il entendit des cris. Il vit au large un bateau ballotté par les vagues. Les passagers, dans l'obscurité, criaient par crainte de sombrer, car la tempête soufflait comme Azraël. Même les infidèles et les révoltés avaient repris foi en Dieu et tous se prosternaient désespérés. Voyant cela, Dakuki eut les larmes aux yeux. « Ô mon Seigneur, dit-il, pardonne-le et porte leur secours. » Cette prière fut entendue et le bateau fut sauvé. Mais les passagers crurent que ce lit était dû à leurs propres efforts. Ils croyaient que leur prière avait été acceptée. Comme le renard qui échappe aux griffes du lion grâce à ses pattes, mais reste toujours aussi fier de sa queue. Bref, le bateau accosta au moment même où Dakuki et les fidèles achevaient leur prière. Les fidèles dirent: qui a pu faire ce prodigue? Serait-ce l'imam qui, pris de pitié, aurait adressé cette prière à Dieu? Il aurait osé interférer avec la volonté divine. Et quand Dakuki se retourna, il vit que tout le monde était parti. Ils avaient tous disparu, comme des poissons se faufilant dans l'onde. Dakuki se remit à pleurer. « Ah, c'est maintenant que tu tombes dans le piège. Homme sans maturité, tu croyais, comme tout le monde, qu'ils étaient des hommes. Toi, tu les as regardés avec les yeux de Satan qui dit « Je suis créé à partir du feu et Adam à partir de la boue. » Ô Dakuki, ouvre les yeux, cherche encore jour et nuit. Laisse tomber les œuvres de ce monde. Cherche les hommes en invoquant son nom. Le fils de Myriam. Un jour, Jésus, le fils de Myriam, se dirigeait en courant vers la montagne. Quelqu'un se mit à le suivre en criant: personne ne te poursuit. Pourquoi cours-tu ainsi? Jésus, tout entier préoccupé par sa fuite, ne répondit même pas à la question. Mais l'autre réitéra son appel. Au nom de Dieu, arrête-toi. Je voudrais juste savoir ce que tu fais, car en apparence, il n'y a ici nul sujet de crainte. Jésus répondit: je suis un sot. Ne te mets pas sur mon chemin. Ne retarde pas ma fuite. L'autre s'exclama: comment? Toi qui possèdes le souffle saint, toi qui as guéri des aveugles et des sourds, toi qui peux ressusciter un cadavre en soufflant dessus, toi qui fais un oiseau d'une poignée de boue, Pourquoi cette crainte ? Jésus répondit, « C'est Dieu qui a créé mon âme et ma chair. Quand j'invoque son nom, l'aveugle et le sourd sont guéris. Quand j'invoque son nom, la montagne se disperse comme une meule de foin. Si je murmure son nom à l'oreille d'un cadavre, il la ressuscite. Une goutte devient océan par son nom. Je l'ai invoqué 1000 fois devant un sceau, mais il n'y a eu aucun résultat. » L'homme insista. « Comment se fait-il que le nom de Dieu, qui influence le sourd, l'aveugle et la montagne, soit sans effet sur un sceau ? Si la sottise est une maladie comme les autres, comment se fait-il qu'on ne trouve pas de remède ?» Jésus répondit, « La sottise est une malédiction de Dieu, alors que la cécité n'en est pas une, car elle s'acquiert. Les mots que l'on acquiert méritent la pitié, mais la sottise est notre ennemi. » Comme Jésus fuit les sceaux, la conversation des sceaux fait diminuer ta foi, de même que l'air fait évaporer l'eau. Si tu t'assois sur des roches humides, la chaleur s'en va de ton cœur et tu tombes malade. Le sceau refroidit ta nature. Ne crois pas que Jésus s'enfuyait par crainte. Il était protégé par Dieu. Non, il n'a fait cela que pour ton enseignement. Graines. Lorsque l'oiseau se pose sur un mur et voit les graines qui servent d'appât au piège, son désir le pousse vers ces graines. Il les regarde, puis il regarde les vastes plateaux. L'oiseau qui résiste à ses tentations s'envole vers les plateaux, plein de joie. Le ruisseau de la lune. Un troupeau d'éléphants s'était installé sur le bord d'un ruisseau et les autres animaux se lamentaient de ce que cette présence les privait du libre accès au cours d'eau. Chacun se mit à chercher un stratagème pour les faire déguerpir, car il était clair qu'aucune force n'était suffisante pour les obliger à partir. Le premier jour de la lune, un vieux lapin monta sur un monticule et cria aux éléphants. « Au sultan des éléphants, je suis un messager, le messager de la lune. Si tu veux avoir la preuve de mes dires, écoute ceci. Dans 14 jours, la lune se montrera dans l'eau. Et voici le message que la lune vous envoie. Ce ruisseau nous appartient. Et il est interdit à quiconque de s'en approcher sous peine de devenir aveugle. Croyez-moi, si vous restez près de ce ruisseau, vous serez aveuglé par des étincelles. Et si vous osez vous y désaltérer, la lune frémira dans l'eau pour montrer sa colère. Au 8e jour de la lune, le sultan des éléphants alla boire au ruisseau. Mais quand il y trempa sa trompe, il vit frémir la lune à la surface. Alors, il commença à croire ce que lui avait dit le vieux lapin, mais les autres éléphants le rassurèrent en lui disant, « Nous ne sommes pas assez sots pour nous enfuir parce que la lune a bougé. »
Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán.